Quand on prêche la parole du Seigneur, c'est un grand privilège, mais une grande responsabilité aussi. Parce qu'on est confronté à sa parole, on a la responsabilité de prêcher la bonne doctrine du Seigneur pour édifier, premièrement pour glorifier son nom, deuxièmement pour édifier son peuple. Alors c'est grâce à Dieu qu'on peut le faire. Dans notre incapacité, il nous aide pour que nous puissions partager sa parole. Et Ronald, presque, je viens peut-être juste à faire la conclusion, parce que les chants parlent très bien, décrivent pas mal bien, surtout le dernier chant, de ce que nous allons voir dans le psaume 24, parce que le psaume 24 pose la question, qui pourra monter, aller et monter vers la montagne sainte de Dieu? Et c'est lui qui a le cœur pur. Et nous allons voir plusieurs choses dans les psaumes que le Seigneur veut que nous voyons ce matin pour notre édification. Mais je voudrais d'abord prier. Seigneur, nous te remercions et te glorifions parce que c'est toi, notre roi. C'est toi, notre Seigneur. Tu n'es pas juste Seigneur de toute la terre, mais notre Seigneur personnel. De chacun de ceux et celles qui t'ont reçu comme leur sauveur, comme notre sauveur. Nous te glorifions ce matin d'être ensemble, de louer ton nom, d'être comme le corps du Christ et nous présenter pour élever les louanges devant ton trône de grâce auquel nous avons déjà libre accès par le sang de l'agneau parfait qui a été immolé pour nous, Seigneur, sur la croix. Merci pour ta mort volontaire en ma faveur, en faveur de tous ceux qui t'ont reçu. Merci Seigneur parce que nous pouvons maintenant être devant toi, te glorifier. C'est le privilège de tes enfants seulement, Seigneur. Plusieurs puissent vouloir ou prétendre te louer, mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, je ne crois pas que tu reçois cette louange, Seigneur. Selon l'enseignement de ta parole, toi tu reçois la louange de tes enfants, de ceux qui t'aiment, de ceux qui ont le cœur purifié par le sang de l'agneau. Et c'est en son nom que nous te glorifions ce matin. Amen. Mais nous allons voir certaines choses pour nous mettre en contexte du psaume. Les psaumes, vous savez bien, ce sont des poèmes avec la musique que plusieurs personnes ont écrit, qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, puis on écrit pour louer le Seigneur et pour nous donner un bon enseignement à nous de nos jours, dans les temps passés, dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, mais maintenant pour nous qui sommes rachetés par le Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice. Alors, mais le livre des Psaumes, ce n'est pas juste de poésie, il y a une richesse prophétique dans tous les psaumes que nous voyons, qui nous parle presque littéralement certaines choses du sacrifice de l'agneau de Dieu, du sacrifice de Jésus-Christ. Comme par exemple le psaume 22, si vous le lisez, il décrit exactement les souffrances que le Seigneur Jésus a passées sur le bois de la croix. Tellement, presque littéralement, il y a des choses qui sont décrites. Il y a des choses que maintenant, un étudiant préparant le message de ce matin, je voyais que je ne comprenais pas. Et maintenant, c'est tellement clair des choses que le Seigneur fait, qu'il nous révèle par sa parole. Et je vais vous les partager plus tard avec vous. Et je pense que vous allez être surpris aussi de certaines expressions qu'on a la misère à comprendre, que le Seigneur a dit dans le Nouveau Testament quand il était avec ses disciples. Des choses que la parole dit aussi par rapport au Seigneur. Je me demandais tout le temps, pourquoi le Seigneur s'est autodécrit comme un ver? Je disais, c'est Dieu lui-même. Comment est-ce qu'il s'est décrit comme un ver? Et là, je vais vous expliquer tantôt tout l'enseignement qu'il y a dans cette expression et qu'on peut le voir dans le Nouveau Testament, appliqué d'une façon littérale au Seigneur Jésus-Christ. Mais pour, comme je disais, pour mettre au contexte aussi le livre des psaumes, vous pouvez lire pour sur la souffrance de l'éternel, loin de l'éternel, mais aussi vous pouvez voir pour le temps de la fin, le temps de la tribulation. Et pour ça, le psaume 60, le psaume 79, Jérémie 37, Matthieu 24, mais surtout le psaume parle aussi du temps de la fin, le temps de souffrance qui dit le Seigneur a été préparé pour ceux qui, l'inique, que c'est l'Antéchrist, Satan, mais aussi pour ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Le peuple d'Israël, principalement, parce que Dieu veut que ce peuple-là se tourne vers lui, parce que pendant toute l'histoire, vous connaissez, le peuple d'Israël ne reconnaît pas Jésus-Christ, à part quelques-uns, les juifs appelés juifs messianiques, qui reconnaissent maintenant le Seigneur Jésus comme le Messie qui devait venir, mais la plupart, je pourrais dire 99% des juifs, la nation juive ne croit pas que Jésus-Christ est c'est le Messie que le peuple d'Israël attendait. Alors, il y a plusieurs livres dans la Bible, et le psaume fait partie de ceux qui sont appelés poétiques, les livres poétiques. Je sais que vous connaissez déjà, je vais juste rafraîchir votre mémoire, les livres poétiques, Job, psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Ce sont les cinq livres poétiques de la parole de Dieu. Mais pourtant, ils ont une richesse, comme je disais, prophétique, une richesse doctrinale même, dans ces cinq livres poétiques. Cantique des Cantiques, par exemple, il parle, c'est comme une noce, c'est comme l'époux avec sa femme, mais ça décrit l'amour de Christ pour son Église. Et ça peut s'appliquer que le Seigneur Jésus-Christ est l'époux et que la femme, sa femme l'attend avec impatience, avec amour. Et c'est ça que l'Église fait. C'est une figure de Jésus-Christ et l'Église. Mais on ne va pas parler de ça parce que le temps passe. Mais il y a plusieurs personnes qui ont écrit les psaumes, desquels le principal, on pourrait dire, c'est le roi David. Mais tous les psaumes n'ont pas été écrits par David. Vous savez combien de psaumes il y a dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a quoi? 100? 150. Et on attribue à David 78, au Corée, et les fils de Corée, on attribue 10 psaumes à Héman. Et vous pouvez voir ça dans plusieurs sites. Ici, Corée, Duc Chronique, 31-14, Héman, un roi 31, puis par d'Héman, qui a écrit 8 psaumes, et Tan Esrachit, un roi 4-31, par de Tan, qui a écrit un psaume, Salomon, qui a écrit juste 2 psaumes, Moïse a écrit un psaume, Asaph, le musicien, qui a écrit 12 psaumes, Ézéchias, qui a écrit 10 psaumes, puis il y a 28 psaumes anonymes, qu'on ne sait pas qui les a écrits. Mais ils sont là, dans la Bible, ils sont inspirés, font partie de l'inspiration du Seigneur, de la parole du Seigneur. Et nous allons commencer. Je vais lire les psaumes. Vous pouvez suivre, si vous avez votre Bible, avec la vue, la lecture. Il dit comme ça, le psaume 24. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et on a chanté sur la royauté du Seigneur Jésus-Christ. On a chanté que lui, c'est le roi des rois. Alors nous allons voir que moi, j'essayais de voir d'appliquer les normes d'études bibliques quand j'étais au séminaire. On nous dit qu'on doit chercher l'idée principale du passage. Et ça me permet d'exercer ces choses. Et puis moi, je détermine, avec l'aide du Seigneur, que l'idée principale, c'est que Dieu est le propriétaire et souverain de toute la terre, le roi des gloires. C'est ça l'idée principale qui nous décrit les psaumes. Alors nous pouvons avoir déjà une idée que Dieu est le créateur, le propriétaire de la terre, et le roi souverain. Dieu a identifié 4 points principaux. Le premier, Dieu se révèle comme le créateur et propriétaire de toute la terre, versets 1 et 2. Point 2, qui pourrait accomplir la condition de Dieu pour partager avec lui sa demeure ou sa sainte montagne? Ça, c'est dans le verset 3. Et point numéro 3, Dieu énonce les conditions pour ceux qui veulent monter à sa sainte montagne. Dieu énonce les conditions pour ceux qui veulent monter à sa sainte montagne. Et 4, le roi de gloire vient avec autorité et puissance. Et nous voyons ça dans les versets 7 à 10. Mais si nous allons dans l'ordre, le premier point, Dieu se révèle comme le créateur et propriétaire de toute la terre. Versets 1 à 2 dit, « À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. » Alors, premièrement, la terre et tout ce qui est dans la terre, y compris nous, y compris les non-croyants aussi, tout ce qui est renfermé dans la terre appartient à Dieu. Pour quelle raison? Premièrement, il a tous les droits de se dire qu'il est le propriétaire de toute la terre parce qu'il l'a créée. Alors, par droit de création, toute chose appartient à Dieu. Nous, les croyants, nous appartenons à Dieu doublement. Nous appartenons par création et par adoption, parce qu'il nous a rachetés. Alors, nous sommes doublement la propriété de Dieu. Mais par création, le Seigneur, il y a tout le droit de dire « Je suis le souverain de la terre, je suis le propriétaire de la terre et tout ce que la terre renferme. » Ça, c'est le point 1. Tout simplement parce qu'il est le créateur. Genèse, qu'est-ce que dit Genèse 1:1? Au commencement, pardon, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, voilà, tout simplement, la Genèse 1:1 déclare que Dieu a créé les cieux et la terre. Alors, il n'y a pas de doute. Mais 1 Corinthiens 10, 26 dit, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Encore vient affermir et déclarer avec emphase que c'est lui le propriétaire de toute la terre, de tout ce que la terre renferme. Ça dans le point 1. Point 2, 1.2, je veux dire, toujours on est dans le premier point, parce que c'est lui qui l'a affermi. Dieu n'a pas seulement créé la terre, mais il l'a affermi. Et qu'est-ce que c'est ça d'affermir la terre? Qu'est-ce que nous comprenons pour que Dieu a affermi la terre? La Bible dit qu'il a mis les ciments de la terre pour la soutenir. Dieu a créé toutes les choses de telle façon parfaite que la terre, on connaît, elle va en rotation autour du soleil. La gravité et toutes les lois naturelles que nous connaissons, ou que nous avons une idée en tout cas, Dieu les a créées, il a affermi la terre, il la soutient. Vous savez que les théologiens disent que si Dieu enlevait sa grâce une seconde sur la terre, il y aurait une catastrophe dans la terre. Mais Dieu la soutient par sa grâce. Il l'a affermi et il la soutient. Et Hébreu 1, 3 dit, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Les psaumes 111, 7, 8 aussi affirment cette vérité. Alors Dieu a affermi la terre. Il l'a créée et il l'a affermie. Il a mis chaque chose à sa place. Il a fait les choses pour qu'elles fonctionnent pour notre bien. Alors c'est tout cet aspect-là donne l'idée d'affermir la terre. Comment est-ce qu'il a créé la terre? Avec un ordre. C'est pour ça que les théologiens, si vous voyez Genèse 1.1 qui dit Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était quoi? Désordonnée et vide. Et les théologiens pensent qu'il y a eu deux créations de la terre. La première création qui était... Est-ce que Dieu est un Dieu de désordre? Est-ce que Dieu crée des choses désordonnées? Juste comme ça, qu'ils s'arrangent comme ils peuvent. Et c'est pour ça que les théologiens disent que la terre était désordonnée et vide parce que après, quand Dieu a créé la terre, et Satan s'est rebellé contre Dieu, ça donne raison à ce verset qui dit que la terre était désordonnée et vide, à cet temps que Satan s'est rebellé, alors Dieu a dû faire une deuxième création. Mais Dieu a fait toutes les choses et les a affermies convenablement comme il faut, parce qu'il est un Dieu d'ordre, un Dieu de détails, de telle façon que regardez même pour les sacerdotes qui venaient servir le Seigneur, il a affermi, c'est pas la même chose que de soutenir. Hein? Il a affermi, on a affermi quelque chose pour qu'il fonctionne comme il faut, mais il faut la soutenir. Il faut qu'elle reste en fonctionnant comme il faut. Et pour ça, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il aussi crée le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça, c'est Hébreu 1, 2, 3. Alors, ce que je disais, que les théologiens pensent que si Dieu enlevait juste sa grâce et le soutien sur la terre une seconde, il y aurait tellement de problèmes sur la terre, de catastrophes sur la terre. Mais il la soutient pour que la terre fonctionne. L'homme a fait, à cause de son péché, a fait que la terre mal fonctionne parfois. Nous voyons maintenant les crises, les hautes températures en Europe. Je voyais les nouvelles en Espagne, 40 degrés sous le soleil, plus l'effet humidité, ça montait à 45. Et il y avait des personnes qui sont décédées, surtout les personnes du troisième âge et les enfants. Un poupon risquait de décéder à cause de la chaleur. Dans mon pays d'origine, un des plus beaux au monde. J'ai dit un des plus beaux au monde. Hein. Avant, j'étais trop immature, je disais le plus beau. Mais quand on m'a réveillé, le Québec, qu'est-ce qui se passe avec le Québec? C'est vrai, le Québec aussi. Mais là-bas, il y a une crise aussi de chaleur. J'écoute les nouvelles tous les jours d'El Salvador. Il disait qu'il y avait une vague de chaleur, que la température à la capitale, c'est un pays tropical, ok? Deux saisons, plus la pluie, puis la chaleur, le temps sec. Mais la température normale moyenne, c'est à peu près 30 degrés, tout le temps, presque tout le temps. Ça descend, quand il pleut beaucoup, ça peut descendre à 27, 26, mais après ça remonte encore à 30. Mais maintenant, à la capitale, il faisait 35, plus le facteur humidex. Et à la partie de l'est du pays, que c'est la partie la plus chaude, il montait à 40 degrés aussi, plus le facteur humidex. Alors, il y a tout un problème qui s'est fait parce que les récoltes sont affectées. Et la chaleur fait que la récolte meurt, il n'y a pas de maïs, c'est les choses vitales pour le pays. Mais en tout cas, juste pour vous dire, est-ce que c'est la faute du Seigneur? Non, il a créé tout parfait. C'est l'homme, avec tant de choses, le péché, et l'homme a créé tellement de choses qui ont affecté l'écologie, toutes les choses que nous savons, de fait que le monde est déséquilibré maintenant, à cause de l'homme. L'homme procure son mal lui-même. Dieu veut, dit Pierre, que tout le monde procède à la repentance, mais l'homme ne veut pas suivre Dieu. Point 2. Qui pourra monter la montagne de Dieu et se présenter dans son lieu saint? Dieu même pose la question. Qui pourra monter, dans le verset 3, si vous voyez, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Une question que Dieu pose au peuple, dans ces temps-là, directement à Israël. Et la réponse, dans le verset 4, première partie, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a les mains innocentes et le corps pur. Est-ce que avant de recevoir Jésus-Christ, je pouvais dire que j'ai les mains innocentes et le cœur pur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire ça? À quoi fait allusion les mains innocentes? Et avec les mains, on construit puis on détruit. On fait tant de choses bonnes avec les mains, mais on peut faire aussi tant de mauvaises choses avec les mains. Alors, les mains innocentes sont celles qui n'ont jamais fait de mauvaises choses. Hein? Vous savez, je ne vais pas demander, lever la main, ceux qui n'ont pas fait. Chacun se connaît et chacun est devant le Seigneur. Mais le corps pur, encore. Le corps pur, c'est quoi la pureté? Absence de choses ajoutées. Et vous voyez que certaines nationalités racistes ne veulent pas se mélanger avec d'autres races parce qu'ils veulent garder la pureté. Hein? Nous allons voir aussi que l'homme cherche à se faire purifier par les rituels religieux. Nous allons voir les quatre principales religions vivantes qu'on appelle. C'est l'hindouisme, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et nous allons voir, je vais vous mentionner juste quelques rituels qu'ils font pour se purifier, pour arriver à Dieu, pour atteindre Dieu. Mais l'homme ne peut pas. Peut-il l'homme se purifier par ses propres moyens? Romains 3, 23 qui dit, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et tous, c'est tous. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas quelqu'un qui reste de côté. Si ce n'est pas Jésus-Christ, que c'est l'homme, le seul homme parfait qui a marché sur ce monde. À part lui, tous sont péchés, déclare la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, on ne peut pas prétendre avoir des mains innocentes et avoir un corps pur. Encore pire, de vouloir se justifier de cette manière. Alors, qui pourra monter la montagne de Dieu et se présenter dans son Dieu saint? La réponse, personne. Personne. Par mes propres moyens, je ne peux pas prétendre monter à la présence de Dieu par mes propres moyens. C'est impossible. Et l'homme tente de se purifier par ses propres moyens. La religion. Okay? Dites à penser, qu'est-ce que veut dire religion? Relié. Okay? L'homme prétend que Dieu est assis sur son trône et relié, la religion, c'est que l'homme va atteindre Dieu. Et l'homme, avec ses rituels et sa religion, il veut aller et même, peut-être même toucher un petit peu les pieds du Seigneur qui est sur le trône. Mais est-ce que s'il sera capable, l'homme, avec la religion? Il n'a jamais été capable. Et voici les exemples les plus connus. L'hindouisme utilise principalement trois éléments. Et j'ai appris bien des choses en cherchant sur ces religions-là. Je ne savais pas qu'ils priaient beaucoup, l'hindouisme, les hindous. Les trois éléments principaux sont la prière, la méditation, les ablutions. Qu'est-ce que c'est une ablution? Tout simplement, un lavage. Normalement, une ablution, c'est laver le corps, pour purifier le corps. Okay? C'est un aspect religieux qu'il y a dedans. Ce n'est pas une question d'hygiène comme nous le faisons, comme nous c'est conseillé à nous. C'est une question religieuse, c'est un rite, un rituel. Alors, mais la prière, la méditation et les ablutions, c'est laver le corps dans des eaux sacrées. Est-ce que vous avez déjà vu les pèlerinages qu'ils font les hindous au Gange, le fleuve Gange? Moi, je voyais un documentaire sur eux, les pèlerinages qu'ils font pour le Gange, pour aller se laver, parce qu'ils croient qu'en se submergeant dans ce fleuve-là, ils obtiennent la purification de son corps et de son âme, d'une certaine façon, en tout cas temporairement. Et moi, je voyais cette. J'aime beaucoup les documentaires, je voyais ces documentaires sur les hindous qui vont pour se faire purifier, pour se submerger dans les eaux du Gange. Et il y avait des animaux morts à côté. D'où ils rentraient, il y avait c'était une âne, je crois, qui flottait, toute gonflée. Il y avait des déchets partout. Vous connaissez l'Inde, je ne sais pas, si je ne prétends pas que vous êtes allé en Inde, mais par film, par vidéo, c'est un pays pas tout à fait propre. J'ai vu des commentaires que. La pâte pour faire le pain avec le tien avec le pied, là, le pied nu. Je voyais qu'il faisait là. Et après, il faisait le pain, puis il mange. Moi, j'étais surpris, mais en tout cas. Et là, purification. Entrer dans le Gange, à côté de des ordures, des animaux morts, mais l'eau des Ganges est spéciale, est bénite. Alors. Je vais me purifier en rentrant dans cette eau-là. C'est un des rituels qu'ils font les hindous. Le yoga. Si quelqu'un a pratiqué le yoga, un chrétien prétend vouloir le faire, sachez que le yoga, ce n'est pas juste une question de santé pour le corps. Le yoga, c'est une sorte de transe pour entrer en communication avec les dieux de l'hindouisme. Moi, avant de devenir chrétien, j'avais la folie de faire le yoga. Et on m'avait envoyé même des informations de l'Inde, parce que moi, j'allais à la source, selon moi. Mais en tout cas, Dieu m'a gardé de ces choses-là. Mais j'écoutais aussi quelqu'un qui expliquait un peu plus approfondi le yoga. Et c'est quoi le yoga? Le yoga, c'est le contrôle du corps et de l'âme. C'est entrer en contact avec un des dieux de la religion hindoue. C'est ça le yoga. Voyez-vous, alors il y a un danger en faisant ça. Mais eux, ils le pratiquent justement comme un rituel de purification de l'âme et du corps. L'ablution quotidienne, c'est-à-dire se laver avant la prière. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas par hygiène, mais il faut se laver parce que je veux prier. Et en me lavant, je procure un peu plus de pureté pour ma vie et pour mon corps. Les offrandes, offrir aux dieux des fleurs, de l'encens, des lumières, c'est-à-dire des petites bougies, et la nourriture. Et moi, encore une fois, je voyais un documentaire de l'Inde, il vient louer le dieu Ra. Okay? C'est un gros rat qui a une statue d'un rat qui est dans le temple et il apporte la nourriture. Okay. Et moi, je voyais celui qui faisait l'offrande de la nourriture, et il se mettait là, et les rats sortent, ils sont pas, comment je dis, je veux dire, pardon? Non, non, ne sont pas affamés parce qu'on les amène la bonne nourriture. Et le monsieur s'est mis à genoux et il a mis l'assiette avec la nourriture. Il les rats sortent, mais beaucoup de rats. Et le grand privilège, c'est qu'un rat monte sur ton bras ou sur une partie de ton corps. Ça, c'est un gros privilège. C'est atteindre un petit peu de pureté. C'est incroyable à quelle mesure l'homme est capable d'arriver par ignorance, en voulant agréer Dieu selon leur concept, selon leurs idées. Et aussi, j'étais surpris qu'ils jeûnent. Les hindous, ils jeûnent, pratiquent le jeûne. Et il dit, pour certaines festivités. Par exemple, ils jeûnent pour fêter la naissance de Krishna. Okay? Et alors, ils font des jeûnes pour fêter la naissance de Krishna. Et en honneur de ces quatre dieux principaux. C'est quoi les quatre dieux principaux de l'hindouisme? Brahma, Vishnu, qui l'autre? Brahma, Vishnu, Kali et Shiva sont les quatre dieux principaux, mais il y en a des milliers. Okay? Et tout ce qui vient à la tête de quelqu'un, il peut se convertir en dieu. Et le monde commence à adorer, puis à faire des choses par rapport à ces dieux-là. Réciter quelque sorte de mantra aussi. Des récitations des choses. Il n'y a pas d'eau ici. Des récitations des mantras. Excusez. Et le fameux Om. Vous avez écouté les Om, Om. Vous avez déjà écouté ça dans le film? Les Tibétains l'ont adopté. Les bouddhistes tibétains. Alors ils font la méditation, ils rentrent dans une sorte de transe en faisant Om, Om. Je ne sais pas si vous n'avez pas jamais vu de film comme ça, mais c'est un mantra. C'est arriver à un certain état de comment je pourrais dire, de transe, oui, de transe, parce que ça purifie l'âme, selon eux. Maintenant, l'islam. L'islam, ils ont quelque chose qu'ils appellent wudu ou wadu, quelque chose comme ça. Et c'est une ablution qu'ils font avant la prière. Encore une fois, ce n'est pas un acte d'hygiène, c'est un rituel religieux. C'est un rituel religieux parce qu'ils doivent se laver pour. Merci. Voyez-vous que la Bible dit que c'est mieux deux qu'un? Merci beaucoup. Ella es ma soeur, ma femme. Bon, l'islam, il pratique, comme je dis, le wudu ou wadun, je ne sais pas exactement la prononciation, et c'est un lavage qu'ils font avant la prière. Ils font, alors, je ne sais pas. C'est bon dans le sens hygiène parce qu'ils se lavent plusieurs fois, ceux qui sont fidèles, se lavent plusieurs fois pendant la journée. Parce que je sais que l'islam, il fait 5 prières par jour, quelque chose comme ça. Hein? Alors, 5 fois, ils se lavent. C'est bon. Je ne sais pas si tous les corps, mais en tout cas, il y a le rituel de l'ablution avant la prière. Une autre chose qu'il appelle le gushi, l'ablution de purification après l'intimité. Quand les époux ont eu un temps d'intimité, ils font les wuxi pour et aussi les femmes le pratiquent après le cycle menstruel. Okay? D'après son temps, les femmes, ils font les wuxi, c'est-à-dire se purifier. Ce n'est pas encore juste une question d'hygiène. Oui, c'est compris l'hygiène, parce que s'ils se lavent, ben, ça va être propre, mais ils le font parce qu'il faut le faire. Sinon, on est désapprouvé, on n'est pas en harmonie avec Dieu, parce que ça me purifie pour être en communion avec leur Dieu. La purification du corps va de la main à celle de l'âme. Pour eux, le corps est autant important que l'âme. Est-ce que pour les chrétiens, oui ou non, on va arriver à voir ça. Le judaïsme, ben, les aliments aussi. Ils ont copié du judaïsme, les islamites. Et l'islam a copié, ils ont inventé le mets halal. Okay? Ça, c'est une copie de cochers, de juifs. Parce que vous allez, si vous étudiez un petit peu l'islam, lisez un peu sur l'islam, ils ont copié même des choses du catholicisme. Est-ce que vous voyez que les islamites, les musulmans, ils comptent quand ils font les prières. C'est ça que les catholiques appellent le rosaire. Un collier avec plusieurs perles, comme sorte de boules, et ils comptent les prières. Bon, l'islam, son créateur, Mohammed, a copié ça d'un ancien sacerdote catholique qu'on l'avait chassé parce qu'il inventait des hérésies selon l'Église catholique, et il a rencontré au Moyen-Orient avec Mohamed, et puis il a copié ça, il a aimé ça. Et puis, mais il y a d'autres détails qu'on ne va pas dire. Mais le judaïsme, maintenant, le mikvé, ça s'appelle comme ça le rituel, c'est encore un lavage avec de l'eau. Le mikvé est pratiqué plutôt par les femmes. Encore une fois, pour les questions que la femme est impure, pour son période, et après l'accouchement, il doit pratiquer le rituel de mikvé parce qu'elle a été impure. Et oui, la Bible dit, vous vous souvenez, que les femmes juives aussi, après l'accouchement, devaient se purifier. Okay? Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais en tout cas, avant le mariage aussi, les jeunes filles, avant de se marier, ils font le mikvé pour se purifier, pour arriver avec l'approbation de Dieu et avec son mari. Et à ceux qui se convertissent au judaïsme, aux prosélytes aussi, ils font le mikvé. Il faut qu'ils font un rituel de lavage pour qu'ils soient reconnus comme un adepte au judaïsme. Alors, tellement de choses, et spécialement pour les gens qui pourront. Vous savez, une fête solennelle, la fête la plus solennelle de l'année pour les Juifs, que c'est la fête de l'expiation, les Yom Kippour. Alors ils le font et c'est un rituel de purification. Maintenant, le catholicisme romain, et qu'il y a aussi des rituels pour se procurer la purification de leur âme. C'est quoi, par exemple, pour commencer, le baptême d'enfant. Faut que chaque catholique doit amener son enfant, son bébé, pour se faire baptiser. Et c'est quoi l'effet de ce baptême pour les catholiques? Il enlève le péché original qu'on appelle. Okay? Si vous n'êtes pas baptisé dans la religion catholique, si vous êtes un catholique et pour quelque raison on ne vous a pas fait baptiser, vous êtes condamné, vous ne pouvez pas être sous la grâce de Dieu. Il faut que vous soyez baptisé, et là vous rentrez d'une certaine façon dans la grâce partielle de Dieu, parce que ce n'est pas une grâce totale. Ça, c'est la première chose qu'ils font les catholiques comme rituel. La confession ou la réconciliation. Vous savez, vous connaissez, le croyant va se confesser devant un homme, un prêtre, et là, c'est un moyen temporaire de purification de l'âme pour que les péchés ne soient pas n'ont pas d'effet jusqu'à un certain temps. Après, il doit le refaire, puis tout c'est un cercle vicieux, okay, qui ne finit jamais. L'Eucharistie fortifie l'âme selon les catholiques pour avoir la vie sous la grâce. C'est quoi l'Eucharistie? Ben, c'est le fait, vous savez déjà, qu'ils prennent l'hostie, et c'est juste le curé qui prend le vin. C'est égoïste. Parce que, imaginez-vous, si les personnes sont comme moi, avec la bouche sèche, l'hostie va sécher davantage, et puis pas dégorger pour moi. Non, c'est pas juste. Mais en tout cas, les récitations, les rosaires que je parlais, sont une façon de purification de l'âme pour les catholiques. Répéter à plusieurs reprises le Notre Père, puis le Marie, je ne sais pas quoi. En tout cas, des répétitions qu'ils font. Et les bons offres. Okay? Il faut faire de bons offres pour que mon âme avance dans la purification et puisse aller un peu plus vers la grâce de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ est secondaire. Okay? Pour le catholique, en vérité, le sacrifice de Christ, c'est secondaire. La tradition est plus importante que le sacrifice de Christ. Juste pour que nous ayons une idée de qu'est-ce que c'est l'idée de l'homme pour se purifier, pour avoir du mérite devant Dieu. Mais même si la Bible déclare d'une façon claire que nous sommes tous sous le péché, on est esclaves du péché. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est emphatique, mais comme dans la religion catholique, je répète, la parole de Dieu, c'est secondaire. La tradition passe avant la Bible. Et j'ai écouté des sacerdotes dire littéralement comme ça, que les déclarations, quand le pape s'assoit, qu'on dit ex cathedra, le pape, et s'assoit sur le trône au Vatican, lui, il a la même autorité que Christ. Écoutez bien. Et il est infaillible autant que Dieu. C'est une hérésie totale. Et moi, quand j'étais au séminaire pour étudier la théologie, on m'a donné la tâche d'étudier justement la religion catholique, de faire une étude. Et moi, je suis allé à la messe. Je ne savais pas comment faire. Je n'ai pas fait ça. Mais pour écouter bien tous les déroulements de la messe, et prendre note de tous les détails, mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment difficile. Mais maintenant, les conditions de Dieu pour se présenter devant lui dans les lieux saints. Dieu a mis des conditions claires. Avoir les mains innocentes et le corps pur. Sinon, on ne peut pas se présenter devant lui. On ne peut pas monter à sa sainte montagne. Mais ne livre pas son âme au mensonge non plus. Et ça, c'est le verset 4, la deuxième partie. C'est lui qui n'a pas livré son âme au mensonge. Et ça, je pense qu'il nous met KO à nous tous. Encore une fois, est-ce que je pourrais demander, il y a quelqu'un ici qui n'a jamais menti? Dans leur vie, il n'a jamais menti? Jamais un petit mensonge? Parce qu'il y a un enfant, une petite fille, on lui a demandé, OK, est-ce que peux-tu me dire c'est quoi le prompt secours pour les chrétiens? Il a dit le mensonge. Quand on est dans un pétrin, là, on est mal pris. Un petit mensonge nous sort de problèmes parfois. C'est ça l'idée. Mais non, nous devons être véritables. On doit parler la vérité tout le temps. Mais en tout cas, ce sont les conditions de Dieu. Qu'il ne livre pas son âme au mensonge. Et la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle, hein, par la bouche. Et c'est ça qui attire mon attention. Ne livre pas son âme au mensonge, ne dit pas sa bouche au mensonge. La bouche seulement fait exprimer ce que j'ai dans mon cœur. Alors c'est le cœur qui est dans les joues, là. Comment arriver à avoir le corps pur? Si la Bible déclare que nous sommes tous vendus au péché, et Romains 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La Bible déclare. Alors, si on est dans un problème, Dieu demande une seule ablution pour nous, les croyants, un seul lavage pour être purifiés complètement et parfaitement du péché. C'est quoi? Se submerger dans le sang de l'agneau parfait. Une seule ablution. Il nous rend parfait à 100%, complètement parfait, et on n'a plus besoin de faire rien que ce soit pour être purifié. Et là, j'ai dit, j'ai pensé, j'ai étudié le passage du salut, comment on obtient le salut. C'est quoi le fait de se submerger ou de se laver par le sang de Jésus? C'est sûr que tout est un aspect spirituel. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Dieu demande une seule ablution. Qu'est-ce que je dis? Le lavage par le sang de Jésus-Christ. Alors, maintenant, j'ai compris le passage de Jean 6, 54-56 d'une façon plus claire. Je vais vous expliquer comment c'est passé. Si on lit Jean 6, 54 à 56, écoutez qu'est-ce qu'il dit, Jean 54 à 56. Il dit, celui qui mange ma chair, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et je lisais le psaume 22. Dans le verset, si nous allons au psaume 22, dans l'Ancien Testament, psaume 22, le verset 7. Voyez-vous qu'est-ce qu'il dit? C'était le psaume 22 décrit vraiment les souffrances de l'Éternel, du Seigneur Jésus. Le verset 7 dit, « Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » C'est un psaume prophétique parlant du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je dis, « Comment un ver ?» Et là, vous savez qu'en hébreu, il y a deux mots, et ici, je sais qu'il y avait des personnes qui étudiaient l'hébreu, il y a deux mots qui décrivent un ver. Le premier, c'est un rima, c'est un mot hébreu, rima qui décrit, décrit n'importe quelle sorte de ver. N'importe quelle sorte de ver, c'est appelé rima. Mais il y a un ver qu'il appelle Tola, ou Tolat. Et c'est un ver spécial. Il est rougeâtre de couleur. Et ce ver-là, quand il va pondre les larves, et il doit chercher un tronc d'arbre. Il s'attache au tronc d'arbre, et les larves naissent, mais dans le tronc d'arbre, il n'y a pas de nourriture. Alors le ver Tola, il saigne. Et il laisse littéralement sortir son sang et les larves boivent le sang. Et avec le temps, les jours passent et au quatrième jour, le ver, le tola, meurt parce qu'il a saigné. Il s'est vidé complètement de son sang et il tourne de couleur blanc. Et les larves mangent leur chair et il survit. Et il y a le cycle qui continue. Moi, j'ai compris, en voyant cet aspect du ver Tola, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, est purifié d'une façon parfaite. Et parce que même pour les juifs, c'était choquant. Parce que pour un juif, boire du sang ou manger la viande humaine, c'est incroyable, on ne peut pas penser ça. Mais le Seigneur a utilisé cette image. Et Job l'utilise aussi dans le verset 6, Job 25, 6. Il dit, et c'est un verset prophétique encore, il dit, « Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. » Et l'autre... le verset du psaume 22, 7 qui dit qu'il n'est qu'un ver. Et ce sont des expressions appliquées à Jésus-Christ sur le bois du calvaire, la croix. Mais voyez-vous là, l'image, quel profond enseignement. Jésus-Christ s'appelle ver, mais le ver tola, c'est lui qui s'attache à un bois, qui saigne pour donner vie à leur enfant et qui donne littéralement la chair, parce que comme il s'est vidé, comme je disais, complètement de son sang, il meurt et puis les larves continuent à manger leur corps pour survivre. Et peut-être, je ne sais pas si le Seigneur Jésus pensait à cet aspect-là quand il a dit que celui qui ne boit pas mon sang, ni mange pas ma chair, ne peut pas être sauvé. Alors, quel enseignement que j'ai eu personnellement, en étudiant ça. Et alors, on est libéré complètement, on est purifié si nous avons mangé et bu le sang de Jésus-Christ. C'est certainement d'une façon spirituelle. Alors, puis le roi vient. Ce qu'il avons accepté, ce que nous avons, que nous nous avons approprié et bu le sang du Seigneur et mangé sa chair, spirituellement parlant, maintenant un aspect scatologique, ça on rentre dans un problème. L'eschatologie, ce n'est pas nécessairement, on peut croire différents aspects scatologiques et on est sauvé quand même, L'eschatologie n'est pas liée au salut. Il y a plusieurs positions ici. Je sais qu'il y a des frères qui sont amillénaristes. Moi, je suis dispensationaliste. Moi, je crois dans le millénium. Et je suis basé, j'ai des bases bibliques. Et il y a des frères qui sont amillénaristes. Ils ont leurs bases bibliques. On ne va pas laisser de s'aimer pour ça. Ce n'est rien à voir. C'est juste une position eschatologique sur les événements futurs, personne ne peut être dogmatique sur ça. Mais moi, je crois, par exemple, ici, c'est ma croyance personnelle, et je veux éclairer ça, et dire clairement que c'est ma position, parce que je suis millénariste, je crois qu'il y a un millénium sur la Terre quand le Seigneur vient instaurer son règne du millénium sur la Terre. Il dit, il vient pour régner sur la Terre. Le verset 7 à 10 du psaume 24, verset 7 à 10 dit: Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel, fort et puissant. L'éternel, puissant dans les combats. Il parle de la deuxième venue de Jésus-Christ. C'est un passage prophétique de la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors il vient pour régner sur la terre. Apocalypse 12, 12, 5 dit, elle enfanta un fils, quand elle dit elle, il fait référence, selon ma croyance, au peuple d'Israël, d'où est issu le Messie, le Seigneur Jésus, est juif selon la chair. Et il dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Et vers son trône, Apocalypse 12, 15, 5. Le roi revient avec les saints. Si vous voyez en Apocalypse 19, 11 à 14, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Nous allons être là, dans ce groupe, moi en tout cas, je crois que oui. Et sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Et pour la dernière chose, Jésus est le roi de gloire prédit dans le psaume 24. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ qui vient à régner sur la terre, je crois. Alors, c'est. Les psaumes décrits très clairement et d'une façon, comment je pourrais dire, admirable. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et c'est notre roi Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure ou retenir comme enseignement de ce psaume? Plusieurs choses. On a vu que la religion ne peut pas purifier personne. On a vu que la seule façon d'être pur devant Dieu et avoir le privilège de monter devant lui dans son trône, tel que Hébreux le dit, que nous avons l'accès libre par le sang de l'agneau jusqu'au trône de grâce. Et nous pouvons conclure que par cette purification que nous avons reçue et que c'est une ablution, si je peux dire le mot, pas faite par l'homme, mais c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est Dieu qui a établi que seulement en buvant le sang de l'agneau et en mangeant spirituellement parlant, sûrement, sa chair, nous sommes purifiés. Et nous avons le privilège, le droit de monter devant la présence de Dieu dans son trône de grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen.